si on regarde sur le net, enfin sur Internet, on s'aperçoit qu'il y a des sites qui sont carrément orientés, extrêmement orientés. Et ce n'est pas du tout notre propos. On n'a pas l'intention du tout de transformer ce sujet en sujet de polémique. Mais je vous laisse la parole.
Je pense qu'il y a quand même donc là-bas, non, monsieur, il peut se mettre là. Hein, il a la place, hein. Comment là-bas, il y a le...
la place.
Oui, ça va, merci. Non, mais il reste. Je
ah oui, il faut qu'il puisse s'asseoir, monsieur. Niveau d'eau. C'est bon.
Vous avez pensé à éteindre vos machines électroniques? Donc bonjour à tout le monde. Je vais essayer de parler assez fort pour que Christian Lomont entende. Est-ce que tu m'entends?
Exact, bien.
Bon. Les Limousins esclaves des barbaresques. Alors, il y a 3 ans, si vous m'aviez dit que j'allais parler de ce sujet, je vous aurais dit que... Ben, en fait, je ne savais pas que ça existait. Tout a commencé au détour d'une recherche sur Internet. J'ai tapé le nom de ma commune, Cosnat, en oubliant le S. Et alors là, une liste interminable de noms s'est inscrite sur mon écran. 315 noms de Français esclaves des barbaresques en 1785. Et parmi eux, Martial Clausel de Cosnat. Alors là, un Cosnatois captif des barbaresques, au fond, c'est ce qui a piqué ma curiosité. Dès lors, je me suis lancé à la recherche de listes de captifs rachetés dans les États barbaresques. J'ai repéré les Limousins, et puis évidemment, j'ai essayé d'accumuler pour chacun d'entre eux le plus de renseignements possible. Alors évidemment, des fois j'ai réussi, et très souvent aussi j'ai échoué, vous le verrez. Alors d'abord, en peu de temps, rapidement, traçons le cadre général de cette affaire de barbaresque. Les États barbaresques, d'abord. Les États barbaresques. Donc, ce sont ces États qu'on appellerait aujourd'hui le Maghreb, la Libye ou Tripolitaine, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. C'était, si vous voulez, des satellites de l'Empire ottoman ou turc. Et c'est de là que des pirates ou corsaires, vous en avez tous entendu parler, parfois des renégats, c'est-à-dire des chrétiens convertis à l'islam, qui se montraient d'ailleurs souvent les plus terribles, partaient pour des razzias accompagnés de prises d'otages en mer, dans les régions côtières ou insulaires. Les barbaresques, combien de captifs? Je vous dirais que tous les spécialistes de la question refusent de donner des chiffres précis parce que les archives, disent-ils, ne sont pas suffisantes. Alors, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Ce que je peux vous dire, c'est que des tableaux comme celui que nous allons voir, voyez, qui représentent des attaques de navires par les barbaresques, il y en a à foison. Et entre, on va dire, le début des croisades jusqu'en 1830, avec un pic entre 1600 et 1750, il y a eu des milliers et des milliers d'attaques de navires de la part des barbaresques. Quand ils avaient attaqué les navires, ils faisaient des prisonniers, et ces prisonniers, on les vendait, on les proposait sur les marchés aux esclaves dans les États barbaresques. Ici, le marché aux esclaves d'Alger, et des patrons les achetaient pour les mettre au travail. Parfois, c'était les chefs d'État qui les récupéraient des pays barbaresques pour les mettre sur les galères. Et voilà la galère. Combien d'esclaves ont été rachetés? Certainement quelques dizaines de milliers. Certains vont jusqu'à dire entre 100 et 180 000 chrétiens sur l'ensemble de la période. Quelques dizaines de milliers, ça semble sûr. Ce que je peux vous dire, en 3 ans, j'ai récupéré 36 listes différentes de rachats que j'ai à la maison, Marseille, Bordeaux, Montpellier, etc., sur Internet aussi, et elle représente 2755 noms. Ils sont pratiquement tous français, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que la France qui était touchée, bien évidemment. Hein. Les Espagnols, beaucoup plus, et même des pays de l'Europe de l'Est qui étaient touchés. Donc, 36 listes, 2755 noms, 23 limousins. Voilà où on en est pour le moment. Quoi qu'il en soit, la menace que ces barbaresques faisaient peser sur toute l'Europe et sur la France se transformait en véritable panique et qui se propageait jusque dans les moindres recoins du pays. J'en veux pour preuve un acte de décès que j'ai relevé dans les archives de Lectoure. Alors Lectoure, dans le Gers, là-bas, c'est un sacré port de mer, en plein milieu de la Gascogne. Et je l'ai illustré avec deux gravures de l'époque tout aussi terribles. Tu ne les vois pas, Christian, mais ce sont des scènes de torture. Voilà. Le 5e novembre 1641 a été enseveli Bernard Brandelin, donc qui était de Lectoure là-bas, lequel aurait été détenu l'espace de 10 ans entre les mains des barbares turcs, qui lui auraient coupé la langue et percé les parties honteuses pour n'avoir voulu renier la foi chrétienne. Il y a là de quoi effrayer la terre entière. Deux ordres religieux se sont occupés du rachat des captifs, les trinitaires et les mercédaires. Jean de Matha, un provençal, crée l'ordre de la Très Sainte Trinité pour la rédemption des captifs en 1198. Ceux-là, on les appelait les trinitaires et plus tard les maturins parce qu'ils ont pris l'habitude de se promener juchés sur un âne. Ensuite, Pierre Nolasque crée en 1235 la Orden de la Merced, l'ordre de la Merci, soutenu par l'Aragon et la Catalogne. Et on les appellera, eux, les mercédaires. Alors, ils vont travailler ensemble, ces religieux, et parfois, ils vont se faire une guerre terrible. Si bien qu'en France, en 1638, le roi doit intervenir. Et il dit, à vous tel diocèse, à vous tel diocèse. Le Limousin tombe dans l'escarcelle des trinitaires, à ce moment-là. Voilà. Les religieux de la Sainte Trinité et de la Merci vont créer toute une symbolique du pauvre esclave qui doit être racheté et évidemment des généreux rédempteurs. On construit des églises, des couvents. Dans ces églises et ces couvents, il y a des statues. Celle-là, là-bas, c'était un tronc destiné à recueillir les fonds pour le rachat des captifs qui était dans la cathédrale de Dunkerque. Au milieu, un ex-voto qui est dans l'église de Cisco en Corse. Mais plus près de nous, il y a des ex-voto du même type, des plaques, sur les murs de l'église de Capreton dans les Landes. En Corrèze, je n'ai rien trouvé, ni en Limousin. J'ai interrogé beaucoup de monde. On m'a dit que c'était un sujet qui n'avait pas lieu chez nous. Ça m'étonnerait, mais bon, il faudrait fouiller un peu plus. Des tableaux, comme celui que vous avez en bas. Alors, toujours la même scène. Les barbaresques d'un côté, les rédempteurs de l'autre, les esclaves enchaînés au fond et au beau milieu, un coffre contenant l'argent destiné à la rédemption. On disait rédemption et paracha. À peu près toujours la même scène. Et le magnifique rétable de l'église de Magneville, dans la Manche, la Trinité en majesté, deux esclaves enchaînés et les deux rédempteurs. Parce que, évidemment, dans cette affaire comme dans d'autres, l'argent est le nerf de la guerre. C'est la raison pour laquelle les religieux de la Trinité et de la Merci nommaient des marguilliers. Vous connaissez peut-être une autre définition de ce mot, mais marguillier, là, c'était celui qui était chargé dans une paroisse de faire des quêtes lors des cérémonies religieuses pour récolter de l'argent destiné à la rédemption, au rachat. Je passe sur les détails. Il achetait la charge 20 livres, mais en échange, il y avait tout un tas d'impôts qu'il ne payait pas. Il y a eu tout un tas de polémiques là-dessus. Je passe aussi sur le fait que parfois, l'argent de la quête n'allait pas tout dans la même poche, mais bon. Vous voyez, par exemple, en ce qui concerne l'élection de Brive en 1734, le nombre de paroisses qui étaient pourvues de marguilliers, toutes celles qui sont notées ici. On en est à 13 ou 14 ou 15, je ne sais pas. C'est vous dire que tout le territoire français était vraiment largement couvert de marguilliers à cette époque. La rédemption des captifs, c'était aussi le sujet de nombreux livres, nombreuses publications. Il suffit de parler de Las Aventuras del Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, chapitres 39 et 40, si mes souvenirs d'étudiants sont bons. Ces deux chapitres sont consacrés aux aventures d'un captif dans les États barbaresques. Cervantes a été pris lors de la bataille de Lépante contre les Turcs, et puis il a perdu un bras d'ailleurs. Le manco de Lépante, l'appelait-on. Voilà, on a retracé le cadre. Maintenant, avant de me lancer à la recherche des captifs, je veux rendre à César ce qui est à César. Quelle est la place des barbaresques dans la recherche historique en Limousin? En 1876, par là, Combé, dans l'histoire de la ville et du canton d'Uzerche, et Bergue-Lagarde, dans le nobiliaire du Bas-Limousin, parlent d'un certain Antoine Joyer de Maubec. Sous le règne de Henri II, celui qui s'est fait tuer d'un coup de lance au cours de... On est dans les années 1545. Antoine Joyer de Maubec est envoyé en Algérie pour mener une négociation de rachat de captifs. Il était d'Uzerche. D'ailleurs, si vous lisez La Montagne, un an, ou je ne sais pas, on nous a parlé d'un hôtel-restaurant très moderne, de super catégorie qui vient d'être aménagé. Il est à Uzerche, pour ceux qui connaissent là-haut, c'est le château de Joyer-Maubec. Voilà. Donc il habitait là. Donc, à ma connaissance, première évocation, je ne dis pas qu'on n'a pas parlé des barbaresques d'autrefois, mais enfin, un Limousin qui a quelque chose à voir avec les barbaresques. 1908-1912, Victor Foreau, Alfred Leroux publient dans notre revue des articles consacrés à l'ordre de la Sainte Trinité. Mais bon, ils ne s'occupent que de l'aspect religieux, j'allais dire. 1913, Delage publie La rédemption des captifs dans l'ancien diocèse de Limoges, dans la revue du Limousin à Limoges. Alors là, ça commence à approcher. Et il aborde le cas de Bourguet de la Rougerie, originaire de Saint-Hilaire-Pérou, un captif. On en parlera longuement tout à l'heure. Et enfin, il y a 100 ans, Paul Ducourtieu, en 1916, publie trois tableaux, 1643, 1750 et 1785, on en parlera, et il donne les noms de 16 esclaves limousins. Mais sans donner aucune précision sur les cas individuels. Il ne va pas chercher un acte de naissance, dire ils ont existé ou non, il les nomme. Voilà, alors 100 ans plus tard, j'ai essayé de faire avancer le schmilblick un peu, et puis évidemment, surtout, d'apporter des précisions sur chaque captif. Alors vous allez voir, je le redis, des fois j'ai réussi, et des fois j'ai échoué d'ailleurs, ça va venir tout de suite. La première rédemption de captifs dans laquelle on nomme le Limousin est de 1643. Le livre qui y en rencontre s'appelle Victoire de la Charité. Si vous voulez le lire, vous allez sur Internet, vous tapez Victoire de la Charité sur le site de Gallica, la Bibliothèque nationale de France. Vous avez à la page 188 Pierre Boivin dit La Cour de Limoges. Voilà. À part ça, je ne peux pas vous en dire plus. J'ajoute simplement que j'ai illustré ceci avec une gravure de rachat, les religieux. Les barbaresques, les captifs et le coffre. Toujours le même. Aux archives de la Gironde, à Bordeaux, pour 1681, il y a quatre listes intéressantes, quatre documents. Le premier, c'est le catalogue des esclaves chrétiens rachetés au mois de février, mars, avril 1681 à Salé, Fès et Tétouan en Barbarie. C'est le Maroc, ça. 91 noms. Et parmi eux, Laurent Vacher de Brivet-la-Gaillarde, diocèse de Limoges, racheté en Alger en 1678. Fourni pour partie de son rachat 150 livres. Donc, Christian, pour voir si tu suis. Tous les autres captifs ont été rachetés 750 livres, dont il a avancé combien? Voilà. C'est donc qu'il a avancé 600 livres. Alors, quand on est esclave à Alger, on ne trouve pas 600 livres sous les sabots d'un cheval. J'imagine que sa famille l'a aidé. Il n'y a pas apparemment d'autre solution. Alors, Laurent Vacher, racheté en 1678, il avait au moins 25-30 ans, il était vers 1650. Or, l'état civil de Brive n'est vraiment complet qu'à partir de 1660-61. Toutefois, deux choses. Premièrement, Madame Guély m'a dit, vous savez, les Vachers, ça ne courait pas les rues à l'époque. Et dans l'état civil, c'est vrai. Les rues de Brive.
Il y a beaucoup de Vachers, mais...
Voilà. Deuxièmement, 1662, le 31 août, exactement, a lieu le baptême, ici, de Catherine Vacher. Son père est juge de monsieur le prieur. Sa mère s'appelle demoiselle Jeanne de Vielbans. Et le parrain est avocat. Donc moi je me dis que c'est du bon monde et que peut-être qu'eux ils ont été capables de, d'avancer les 600 livres. Alors, est-ce qu'on peut faire une relation entre ceci et cela? Je vous laisse juger et je laisse quand même des choses en suspens, hein, je ne vais pas affirmer. Deuxième liste intéressante pour 1681, une liste manuscrite, sans date, mais par recoupement, je suis formel, elle est de 1681. Et on y trouve Jean Marceau, si Madame Guély ne me l'avait pas dit, je ne l'affirmerai pas, mais je vous dis que c'est Jean Marceau, et de Limoges, alors ça c'est sûr. Il ne va pas l'inventer, donc voilà encore un Limousin, malheureusement. Il va être difficile d'aller plus loin, on sera plus précis tout à l'heure. Et nous en arrivons à la rédemption des captifs de 1750. Il y en a eu deux cette année-là. Cette rédemption, c'est l'ordre de la procession des captifs rachetés au royaume d'Alger en 1750 par les chanoines réguliers de l'ordre de la Sainte Trinité dit Mathurin, qui se fera le vendredi 11 décembre 1750. Alors là, je me suis procuré un exemplaire original de... non pas d'un livre, mais d'une, voyez, d'une petite brochure qui rend compte de ce qui va se passer. Il va y avoir une procession à Paris. On nous indique dans les quatre premières pages comment elle sera faite, cette procession, comment ils vont être habillés, les instruments de musique, tout et tout. Et les quatre dernières pages, ce sont tous les captifs. Il y en a 105, non, parmi lesquels, alors nous le voilà, Pierre Bourguet de Brive-la-Gaillarde, diocèse de Limoges, âgé de 29 ans, esclave 10 ans, Jacques Messignac et Jean Chapeau. Et nous allons nous intéresser au cas de Pierre Bourguet de la Rougerie, un cas emblématique. Je dis emblématique parce que de tous les captifs, c'est celui pour lequel on a le plus de choses. Là, si j'étais romancier, j'aurais fait un roman, mais bon, ça sera pour d'autres. Alors, Jean Bourguet, il est né ici, au château de Pic. Ne me dites pas qu'il y en a qui le connaissent. Bon, alors dans un premier temps, j'avais dit Pic, Pec, puis la colline, c'est pas sûr, hein. Parce que Pic, ça peut être aussi le pain, enfin bon. Mais c'est au sommet d'une colline. Ce château se trouve dans la, aujourd'hui, commune de Saint-Hilaire-Pérou. C'est un petit castel, vous le voyez, ici c'est la façade sud, avec deux belles petites tours, une à chaque extrémité. On l'appelait château de Pic, mais on l'appelle aussi château de Bourguet, parce que les propriétaires des lieux avaient imposé leur nom au lieu dit où ils habitaient. Ces Bourguets, c'était des gens qui avaient des sous, ils avaient des biens sur Saint-Hilaire, ils avaient des biens aussi dans les paroisses environnantes. Alors, pour ceux qui connaissent, vous connaissez Saint-Hilaire, il faut monter sur le plateau de Vinarsal, là-bas, et pour aller à Saint-Hilaire, je me mets dans le bon sens, il faut tourner à droite pour aller au bout, vous prenez à gauche, là vous avez un quartier qui s'appelle Bel Air, l'école, le nouveau cabinet médical aussi. Oui, on continue, et là, on va descendre dans la vallée de la Couze. hop, au moment de traverser, on voit un beau bâtiment en pierre, et on se dit, ça c'est un moulin, c'est un moulin. D'ailleurs, le panneau dit, moulin du Bourguet. Il appartenait à la famille Bourguet, ce moulin. Et puis, s'il y en a qui ne voulaient pas nous croire, regardez ce linteau, 1643, Pierre Bourget. Bourget, Bourguet, on y est. Dans cette famille, Pierre, c'est le prénom que l'on se transmettait de père en fils ou de pierre en fils, comme on voudra. Et pourtant, à la période qui nous intéresse, on arrive à 1700. Le propriétaire des lieux, exception qui confirme la règle, c'est pas un Pierre, c'est un Jean. Jean Bourguet, juge du pic, on dit. Donc, c'était une notabilité du coin. En 1700, il épouse Françoise Souchet, ou Chouchet, qui est la fille du juge de Chaméra, elle. Et entre 1700 et 1719, ils vont avoir 9 enfants. 5 garçons et 4 filles. Alors, comme d'habitude, l'héritier, l'aîné va devenir héritier, ça c'est prévu d'avance. Et puis pour distinguer les autres, parce que sacré travail, oh Pierre, il y en a 10 qui arrivent, on a rajouté une petite particule à chacun, ils ne sont pas devenus nobles, la rougerie, c'est une propriété que les Bourguet possèdent sur Chaméra. Voilà. Et donc, 4 filles aussi. Et puis, les années vont passer, à toute vitesse, comme dans la vraie vie. L'aîné s'installe au château. Il fait des affaires avec son père. Alors, ça se voit chez le notaire. Ça, c'est formidable, parce que je suis bien tombé. Les anciens notaires de Saint-Hilaire, toutes les minutes, sont conservés. Donc, on voit qu'ils achètent, qu'ils vendent, qu'ils louent, etc. Ceci en ce qui concerne l'aîné, deux fils, la praderie et la rougerie. Le futur Cartier font des études de médecine. Et puis la praderie réussit bien. Hein. La preuve, il vient à Brive et il s'installe et devient maître chirurgien principal, m'a dit Madame Delis. En 1740, il est élu consul de Brive-la-Gaillarde. Donc ça marchait pour lui. Les filles, on les dote et on les marie avec des gens en vue dans la région. Et puis voilà, les années passent et nous en arrivons au mois d'avril 1744. Jean Bourguet est malade et assis au devant de la cheminée. Fait appeler le notaire pour lui dicter ses dernières volontés. Alors un testament classique. Tout va revenir à l'aîné pratiquement. Les autres garçons recevront 600 livres. Et les filles, on l'a dit, on leur a donné la dot, et on les a mariées. La surprise, elle est pour le lendemain. Jean Bourguet fait rappeler le notaire. Alors, on se demande qui a pu lui souffler ça à l'oreille, ou s'il l'a fait de son plein gré. Je ne sais pas. Et voilà que Jean Bourguet dicte des modifications du testament qu'il a fait la veille. Deux paragraphes importants. Premièrement, il dit que deux de ses fils sont partis en laissant des dettes. Bourguet de la Font, à hauteur de la valeur d'un cheval, Bourguet de la Rougerie, à hauteur de la valeur d'une paire de bœufs. 180 livres, 200 livres. Mais pire que ça, Bourguet de la Font est parti du château en emportant des meubles qui s'y trouvaient. Alors lui, il a pris la poudre escampette sans rien dire à personne. Et on devine une petite fâcherie, ou une grosse fâcherie là derrière. Bien. Deuxième paragraphe important. Jean Bourguet fait écrire « Je veux aussi que les légats, c'est-à-dire les promesses de dons que j'ai fait, audit Pierre Bourguet de la Rougerie et Pierre Bourguet de la Font, qui sont absents, reviennent à mon dit héritier en cas qu'ils ne reviennent pas. » C'est un peu compliqué, mais ça veut dire, un, Bourguet-la-Rougerie n'est plus à Saint-Hilaire-Pérou en avril 44, et deuxièmement, est-ce qu'on souhaite vraiment qu'ils reviennent? Le fait est que Jean Bourguet meurt 10 jours plus tard, le 21 avril 1744, le pauvre homme, sans avoir jamais revu ses fils. Et c'est par une lettre écrite depuis Alger, le 17 mai 1745, qu'on retrouve la trace de Pierre Bourguet. Elle est signée « Votre très humble et très obéissant serviteur Poisson, provicaire apostolique des royaumes d'Alger et de Tunis. » Le provicaire, c'était le consul chrétien dans les États barbaresques. C'est bien dit, Mme Guéry ?
Très bien.
Bon. Le provicaire écrit à l'évêque de Limoges. Et il lui dit, alors, ce pauvre Bourguet la Rougerie, c'est un garçon, mais vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Il dit, il se fait remarquer par son amour et son zèle de la sainte religion. Tout ceci pour dire qu'il est esclave à Alger, évidemment, et que le prix de son rachat coûterait 900 livres. Voilà, il ne reste plus qu'à les trouver. Silence radio pendant un an. Un an plus tard, à Saint-Hilaire, Pérou, on nomme le marguillier, vous en souvenez, de l'ordre de la Très Sainte Trinité pour la rédemption des captifs. Et c'est qui ? Le sieur Crémou. Et le sieur Crémou, c'est qui ? C'est le beau-frère du captif. Le mari d'une de ses sœurs. Comment se fait-il que personne ne bouge à Saint-Hilaire au Pérou ? Parce que personne ne bouge. Il faut encore attendre un an de plus et on en arrive ici. Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est rare, ça. Cette lettre est conservée aux archives départementales Haute-Vienne à Limoges. C'est une lettre, c'est la lettre de Pierre Bourguet la Rougerie écrite depuis Alger. Voilà, l'esclave écrit depuis Alger. C'est une lettre désespérée où il explique tout ça. Voyez, je vous la laisse regarder pour l'authentifier. La dernière page. Le très humble, très obligé diocésain Pierre Bourguet de la Rougerie. Alors, des fois, dans sa vie, il écrit Rougerie, des fois Rougerie, des fois un mot, des fois un mot. Vous savez, ça peut changer. Mais c'est lui, hein, à Alger, ce 4 février 1747. Alors, est tellement intéressante la lettre que on va la lire et vous en tirerez la substantifique moelle, comme on dit. Votre grandeur me pardonnera de la liberté que je prends de vous participer de la triste situation où je me trouve. Esclave d'un grand turc d'Alger, depuis 3 ans et demi, pour m'être trouvé sur un bâtiment espagnol. Il a été pris sur un bâtiment espagnol. En qualité de second chirurgien. Et oui, il avait fait des études de médecine, donc ça va. Après différentes lettres que j'ai écrites à ma famille sans avoir pu recevoir aucune réponse, le pauvre, je supplie très humblement, etc., etc. Une fois de plus, est-ce que ces lettres pouvaient s'égarer ? Alors, les lettres d'Alger, elles arrivent à Limoges. Bon, chez l'évêque, d'accord. Mais pourquoi ne seraient-elles pas arrivées à Saint-Hilaire au Pérou ? Chez les Bourguet, qui sont connus comme le loup blanc. Ils ont pignon sur rue, et même on peut dire château sur la colline. Clairement, c'est que on lui fait la sourde oreille aux captifs. On n'a pas trop envie qu'ils reviennent, enfin, j'imagine. Et pourtant, tel le phénix qui renaît de ses cendres, Pierre Bourguet est de retour en France en 1750. Vous l'avez vu sur la liste que nous avons vue tout à l'heure, il n'y a pas de doute. Il est racheté à Alger, il revient à Marseille. Il fait la quarantaine, parce qu'on faisait faire la quarantaine aux prisonniers dans le lazaret de Marseille. Et ensuite, procession à Marseille, et 2 mois de procession. Ah oui, pour ramasser des sous, vous comprenez ? On faisait promener les anciens esclaves, à pied, s'il vous plaît. Et en général, ça prenait 2 mois entre Marseille et Paris. Pourtant, vous dites qu'il y avait des processions, et qu'il devait leur tarder de... Bref, et d'ailleurs... Vous avez vu que la procession était le 11 décembre 1750. Bourguet, la Rougerie, se dépêche de rentrer chez lui. Et il est de retour à Saint-Hilaire au Pérou. Comment le sait-on ? Eh bien, en étudiant les minutes du notaire à Tulle, alors ça c'est extraordinaire quand on découvre ça, le 25 mars 1751, Bourguet, la Rougerie, il fait appeler son frère devant le notaire. Il y a des amis aussi, des gens de la famille... Et il demande à récupérer son héritage. Ça fait 8 ans que le père est mort, il n'a rien touché. Donc il veut les 600 livres et les intérêts. Le frère aîné, lui, il prend ça de haut et lui dit que les parents sont morts en laissant beaucoup de dettes. Et qu'il n'a rien à lui donner. Mais c'est que l'ancien captif, lui, alors il monte sur ses grands chevaux, il est à deux doigts de le citer en justice lorsque, sur le conseil des amis et des parents, on se calme et tout le monde fait, on transige à la somme de 600 livres, ce qui était fixé. Voilà. D'ailleurs, on est en bon terme parce que après, dans les actes paroissiaux ou d'état civil, on voit souvent en bas la signature conjointe de la fratrie Bourguet. Vous savez, tous les pierres.
Oui.
Toutes les pierres, tous les pierres, les uns, enfin, les uns à côté des autres. Et par exemple, quelques mois plus tard, le 12 septembre 1751, lorsque Pierre Bourguet se marie, il épouse Rose-Marie ou Marie-Rose Caron. Mais alors là, elle a 24 ans, c'est la fille de Jean qui habite à Molliens-aux-Bois. J'ai gratté un moment sur Internet avant d'y arriver. C'est là-haut, dans le diocèse d'Amiens, dans le département de la Somme, un village qui existe toujours. Ses parents étaient des gens, ouais, quelque chose comme avocat ou un truc comme ça, une famille aisée. Alors, peut-être que là, pour écrire le roman, ça pourrait servir, ça. Peut-être qu'il l'a connu pendant la période de... Vous savez, quand il remontait de Marseille jusqu'à Paris. Mais bon, de Marseille jusqu'à Paris, il y a moyen de se boire, ça fait loin quand même. Alors, bon, toutes les hypothèses sont permises. Voilà. Par contre, mystère total concernant le couple. Aucun enfant. Je n'ai pas trouvé de descendance. Bon. Et le sieur Pierre Bourguet de la Rougerie, juré, vivant époux de demoiselle Rose-Marie Caron, décède à Sadreau, pas loin, là, le 14 mars 1771, il a un peu plus de 50 ans. Alors, sa veuve ne se décourage pas. 5 mois plus tard, elle le remplace par un autre chirurgien. À 63 ans, elle tombe à nouveau veuve, et là, elle se marie avec un notaire de Pompadour. Voilà, toutes ces aventures et mésaventures, il ne reste plus que le château de Pic, qui est vraiment dressé sur sa colline, et puis le souvenir que nous venons de raviver. Voilà. Ceci dit, en 1750, il y a d'autres captifs rachetés. Alors je passe rapidement sur Guillaume Noël et Jean Chapeau, Lachaise et Georges-Jean. Moi, je suis incapable de vous dire où c'est. Des Lachaise, il y en a peut-être 200, et des Georges-Jean, j'ai pas pu. On continue. Léonard Lacot de Saint-Cyr-la-Haute. Saint-Cyr-la-Roche. Diocèse de Limoges, âgé de 35 ans, esclave, 4 ans. Donc, il serait né vers 1715. Et le 4 janvier 1715, à Saint-Cyr-la-Roche, est baptisé Léonard Lascoutx. C-O-U-B-I-X. Donc, je laisse la question en suspens. Étrange est le cas suivant. Jean Froment, de Limoges, âgé de 43 ans, esclave, 6 ans. Je vous ai dit qu'il y avait un historien qui avait parlé, qui avait publié trois listes. Donc celle de 1750. Il n'y met pas Froment. Alors, je vous dois une petite explication. J'allais presque dire aujourd'hui comme autrefois. Quand quelqu'un revient d'un pays étranger, même s'il a été captif, même s'il a été esclave contre son gré, ben, il n'est pas toujours reçu comme il faut. Et par exemple, j'ai des preuves, hein, je peux vous les montrer si vous voulez, de gens, par exemple, en 1785, j'avance un peu là, il y en a qui font toute une polémique et qui traitent les esclaves rachetés de scélérats. Voilà, le mot qu'ils ont. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un truc comme ça pour Jean Froment? Exactement. Lettre d'un religieux de la Trinité à l'évêque de Limoges, le 26 novembre 50. C'est-à-dire que c'est au moment où ils sont arrivés à peine, hein, les captifs. Alors, je lis. Le nommé Jean Froment est déserteur. Il a été 5 ans dans la milice et 1 an dans la Picardie. Il déserta en 1744, passa ensuite en Espagne, étant alors en garnison à Oran. Il passa chez les Maures, où il fut fait esclave et employé pendant 6 ans à des ouvrages très pénibles. En gros, si je traduis, il s'est réfugié chez les barbaresques à l'insu de son plein gré comme l'autre fois. Bref, il y a tout un tas de polémiques. Il y en a qui veulent les mettre en prison, ceux-là. Finalement, ce sont les évêques qui insistent pour qu'on les relâche. Et il est libéré. Donc lui, il est né vers 1707 à Limoges. Il y a des Froments à Limoges. Dans la paroisse Saint-Pierre du Quérois, un Jean Froment y est né le 1er mars 1704. Ben, il faudrait s'assurer que c'est vraiment lui. Ah, par contre, je vais être formel sur le cas suivant. Jacques Messignat de Gernes, diocèse de Limoges, âgé de 28 ans, esclave 6 ans. Alors, il y en a qui auraient cherché, peut-être, mais moi, j'habite à Ponac. Et le premier hameau qui me sépare du bourg de Turenne, là où je vais marcher tous les matins, c'est Gernes. Donc, ça a été facile. Madame Guélier et M. Palouma sont étudiés Gernes. Et nous disent que dès le XVIe siècle, et même peut-être avant, il y a trois familles, là. Les Deschamps, ceux du Moulin, qu'on est en train de restaurer dans la vallée de la Tourmente, les Battus et les Messignac. Donc, acte. Ensuite, vous allez voir, il va y avoir deux ans de différence par rapport à ce que nous dit la liste. Mais, à mon avis, ça ne change rien. Baptême de Gernes. Le 12e janvier 1724 a été baptisé Jacques Messignac, fils naturel et légitime d'Étienne Messignac et de Philippe Coudert, ses pères et mères du village de Gernes, nous dit le vicaire Treillat de Turenne. Donc, c'est lui. J'ai regardé tous les actes de naissance Messignac sur Turenne, parce qu'il y a des Messignac aussi à Bouzonnie, mais il n'y a pas de Jacques, dans ces années-là. Pas de Jacques. Par contre, j'ai été malheureux, impossible de remettre la main dessus à son retour. Voilà. Je vous le dirai tout à l'heure, il y a des une généalogiste qui m'a aidé. Pour le reste, il a fallu que je me débrouille. Sur la liste de 1754, en deuxième position, Guillaume Mousse de Pomerel, diocèse de Tulle, âgé de 50 ans, esclave depuis 20 ans. Deux petits détails. 50 ans, le pauvre, il est vieux à l'époque. Oui, mais les barbaresques, ils n'étaient pas fous. Quand ils ne pouvaient plus servir les esclaves pour travailler, ils les proposaient sur les listes de rachat. Voilà. Et par ailleurs, une petite remarque aussi à propos des 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme perception de son pays quand on a été esclave dans un pays complètement différent pendant 20 ans? Voilà, ils devaient être déboussolés, les pauvres. Mousse, vous avez déjà vu ce nom en Limousin? Moi, pas beaucoup. Je me demande si ce n'est pas plutôt un surnom qu'on lui a donné quand il était, quand il a débuté une carrière de marin. Bon, je ne sais pas. Pomerel. Pomerel, ça n'était pas une paroisse de l'ancien minuscule diocèse de Tulle, quand même. J'ai cherché du côté des Pomerol de Cornille, je ne sais pas si j'ai bien fait, du Pomerol de Riac-Saint-Try, rien, je n'ai rien trouvé. Enfin, ça ne s'invente pas quand même. Hein, Guillaume Mousse de Pomerel, diocèse de Tulle. C'est dans une lettre du consulat d'Alger, du 10 novembre 1764, qu'on a compris connaissance du cas original de Jean Ferrard, encore en Limousin. Alors le consul raconte comment le bey de Mascarat le lui a remis. Ce même bey fit un acte de générosité auquel je ne me serais pas attendu. Dès le jour de son arrivée, il me fit remettre par un de ses officiers un autre Français nommé Jean Ferrard de la province de Limousin. Qui était son esclave depuis 3 ans, à qui il donna la liberté en considération de ses services. C'est rare. Cet homme, âgé d'environ 38 ans, se dit, quoique ancien déserteur, des troupes de France et d'Oran, purgé du crime de désertion pour avoir profité de la pénultième amnistie avant que de passer en Espagne. Il connaît la loi, le type, là. Hein. Bon. Comme il était d'un génie inquiet, remuant et tapageur, livré à ses camarades d'Oran qu'il avait trouvé dans les chaînes d'Alger, et par conséquent très dangereux pour la tranquillité de la nation. Bref, le consul se dépêche de le faire rapatrier en France, parce que alors, vous avez vu ce Ferrard, agité, remuant, tapageur, et en plus, il s'était, comme on dirait de nos jours, radicalisé dans les prisons d'Alger. Ça existait déjà. Ferrard, là aussi, en Limousin, on n'en trouve pas beaucoup, non. Donc, c'est un dossier qui reste à compléter. La liste des esclaves rachetés en 1765 a pour intérêt de donner les métiers, les professions de tous les captifs. 80 captifs. Par exemple, un calfat. C'est celui qui calfeutre le navire. Il bouche les trous quand il y a de l'eau qui passe. Voilà. Canonniers, on essayait d'armer tous les navires, hein, quand on pouvait, pour se défendre contre les barbaresques. 4 capitaines et 5 second capitaines. Alors ceux-là,
ils étaient recherchés parce qu'ils avaient une forte valeur marchande. Aussi, quand ils se voyaient pris, ils se dépêchaient de jeter tout ce qui était insigne et parfois même leurs papiers. Quatre charpentiers, un chaudronnier, des artisans. Vous me direz, moins important, pas du tout. Les barbaresques cherchaient, ciblaient certaines professions. Alors, on dit que quand ils attrapaient des gens, ils regardaient leurs mains pour savoir ce dont ils étaient capables de faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Alors, charpentier, chaudronnier, mais là, éternel dilemme, qu'est-ce qu'il fallait dire quand on était un bon charpentier? Est-ce qu'il fallait parler de ses qualités pour pouvoir en bénéficier? Vous avez vu l'autre qui a été libéré parce qu'il a rendu service. Ou est-ce qu'au contraire, il valait mieux ne rien dire? Bon, voilà. Parmi, c'est alors lieutenant, maître d'équipage, matelot, chirurgien, deux chirurgiens comme celui de tout à l'heure, un cuisinier, trois cuisiniers, on va avoir un cuisinier, et un bon d'ailleurs. Et parmi tous ces prisonniers, Jean-Baptiste Julien, engagé cuisinier, voilà, 26 ans, de Brive en Limousin. Et alors là, lui, vous allez voir, il le dit toujours qu'il est de Brive. Diocèse de Limoges, esclave 2 ans. Alors Jean-Baptiste Julien, il s'est fait attraper sur un bateau, mais il revient en France, il sort de la quarantaine, il fait les processions et il remonte sur un bateau. Il navigue vers l'île Bourbon, la Réunion, Madagascar et même la Chine. Comment on le sait, c'est extraordinaire ça, ben, en regardant sur le site Mémoire des Hommes, le chapitre Compagnie des Indes, où il y a tous les équipages de tous les navires de 1720 à 1780 par là. Par exemple, je retrouve Jean-Baptiste Julien, il débarque à Lorient le 24 février 1767, du Villevaux. Si vous voulez savoir combien de tonneaux, 900. Si vous voulez en savoir plus, vous allez regarder combien de canons, ce que vous voulez. 6 octobre 1769. Alors là, il débarque à l'île Bourbon. Il est toujours de Brive en Limousin, bien entendu. Hein. Et. Reviens en arrière. Voilà. Donc, il débarque à l'île Bourbon, et là, il n'en partira plus. Quelques temps plus tard, là, on peut changer. Il se marie avec Julienne Catherine Douillère, Jean-Baptiste Julien, natif de la paroisse de Brive, diocèse de Limoges. Hein. Une fille de la Réunion. Donc, et quelques temps. Ils vont avoir des enfants, et lorsqu'il a son premier enfant, on dit qu'il est, je ne me trompe pas, bourgeois de ce quartier. Vous voyez, Jean-Baptiste Julien, il est monté en garde. On peut y aller, y aille. Et en 1791, la famille est recensée. Sieur Jean-Baptiste Julien, né à Brive, diocèse de Limoges, âgé de 48 ans, son épouse, page 2, chef de famille, sa femme, ils ont 8 gosses. Ah, ils en auront 12. Autant vous dire que les Julien, à La Réunion, ils vont encore en rester quelques-uns. Si, 12. Mais le plus étonnant, c'est pas là, le plus étonnant, c'est la suite. Négrillon, de 14 ans et au-dessous, 1. Maigresse, de 13 ans et au-dessus, parce qu'il y a une erreur là d'orthographe, au-dessus, 2. Négrite de 12 ans et au-dessous, 2. Jean-Baptiste Julien, ancien esclave des Barbaresques, a 5 esclaves sous son toit. Bon, apparemment, ça ne l'a pas empêché de vivre sa vie, ni de mourir de sa belle mort, le 23 juillet 1814, à l'île Bourbon, et sur l'acte de décès, né à Brive-la-Gaillarde, en Limousin. Hein. Voilà. Bon, après vous avoir dit tout ça, je dois vous avouer que je n'ai pas retrouvé son acte de baptême, que je le regrette, et que personne n'a été capable de m'aider. Voilà. Mais bon, il est bien né à Brive quand même. Ça. Tout ça, ça ne s'invente pas. Voilà, nous en arrivons au mois de septembre 1776. Alors là, le consul d'Alger-la-Vallée détaille les démarches pour faire libérer 2 captifs. Le premier, un illustre personnage, un espagnol, Don Joaquín de Casabiedia. Bon, il nous intéresse moyennement. Par contre, le deuxième, lui, c'est un Limousin. Illustre inconnu, mais écoutez la lettre du consul. Dans le nombre des esclaves se trouve un lieutenant-colonel d'artillerie, c'est l'espagnol, qui avait à son service depuis quelque temps en qualité de cuisinier, encore un autre, un Français nommé Jean Coste, Limousin.
âgé de 24 ans, sorti de sa patrie il y a 3 ans et 11 mois pour aller en Espagne. Post-scriptum, pour bien vous faire voir que rien n'a été inventé. Jean Coste, fils de Pierre et de Brivezac en bas Limousin. Vous n'allez pas me dire que le consul d'Alger, il va inventer Brivezac quand même. Brivezac, petit port de rivière entre Beaulieu, entre Beaulieu et Argentat là-bas. Est-ce qu'il est vraiment né à Brivezac? Moi, j'en suis pas sûr. Alors, l'état civil est très incomplet pour ces années-là. Je pense qu'il a, il était plutôt originaire depuis l'Arnac, où il y a beaucoup de souches costes. Mais une dame qui m'avait dit qu'elle m'aiderait, je n'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Ce Jean Coste, il s'inscrit dans la lignée des Limousins qui partent faire fortune en Espagne. Ce dont parle Madame Sauvignac dans son livre. Parce que Cadix, ville où il y a de l'argent, centre névralgique du commerce international, et là, on peut rajouter maintenant, base arrière des rédempteurs d'esclaves. Je crois que j'ai dit tout à l'heure la difficulté que ça pouvait représenter de se promener dans les états barbaresques avec un coffre rempli de pièces d'or ou de... Bon. Alors, ce qu'ils faisaient, les rédempteurs, ils menaient les négociations et quand elles étaient bouclées, au dernier moment, elles envoyaient quelqu'un chercher l'argent destiné au rachat et il venait à Cadix parce que c'était prêt. Ou alors, s'il fallait... Parce que ça arrivait des fois à partir sans papier et sans rien dire... Cadix était près de la côte du Maghreb. Voilà. Et nous en arrivons à la rédemption des captifs de 1785. Alors ça, ce n'est pas un exemplaire original, mais c'est commode. On dit à Gallica, enfin, à la Bibliothèque nationale de France, faites-nous imprimer tel livre, et ils vous font imprimer « Voyage dans les états barbaresques de Maroc, Alger, Tunis et Tripoli » ou lettre d'un des captifs qui viennent d'être rachetés par messieurs les chanoines réguliers de la Sainte Trinité, suivi d'une notice sur leur rachat et du catalogue de leur nom. Alors le livre, vous m'excuserez, mais c'est cousu de fil blanc, ça. Ce type, enfin, c'est un anonyme qui écrit ça. À mon avis, il n'est jamais allé là-bas. Hein. Mais bon, alors les bêtes sont monstrueuses, les gens sont décrits, enfin bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dizaine de pages, et ça, oui, ça a de l'intérêt. Cette 315 quand même, là, hein, là il y a eu un rachat de 315 esclaves. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas tous été reçus à bras ouverts. Hein. C'est là qu'il y en a qui ont dit, qui ont publié des articles dans la presse, ce ne sont que des scélérats. Mais c'est une rédemption qui a eu un écho extraordinaire dans la presse de l'époque. On en parle à Paris, à Bordeaux, à Poitiers, à Rouen. Je vous passe les articles, mais je les ai. Par ailleurs, les captifs font deux processions différentes. Les uns, alors, de Marseille, on a fait la quarantaine, on a fait une procession, et on part. On va à Aix-en-Provence, procession. Et là, on fait deux groupes. Les uns montent par Lyon, et les autres par Bordeaux et Poitiers. Procession dans chaque ville, et même petite ville, et deux mois plus tard, on se retrouve à Paris. On se retrouve à Paris pour une procession solennelle qui est devenue célèbre grâce à une gravure qui est publiée à ce moment-là, que voici. Cette gravure, elle représente donc la procession de 1785. Au premier plan, vous avez les captifs. Alors, ils ont leur burnous, là, pour qu'on les reconnaisse. Ils sont entourés de deux angelots. Ce sont des enfants qui déguisés, ils se battaient pour participer à la procession. Eh bien oui, parce qu'on leur donnait des sous.
Ah, oui.
Et chacun d'entre eux est relié à l'esclave avec une espèce de foulard qui représente évidemment les chaînes de la captivité. Là-bas devant, les religieux et les autorités religieuses. Encore un peu plus en avant, des militaires et les autorités civiles. Alors, les militaires, petit aparté là. À Aix-en-Provence, il y a une lettre des religieux de la Sainte Trinité qui demande aux autorités de garantir les processions. Au début, je me suis demandé ce que c'était. Ils voulaient qu'il y ait des militaires de chaque côté des esclaves.
Pour protéger.
Non, parce que... Ils en avaient marre après tout ça, et alors donc ils voulaient partir.
Mais
pour les religieux, il était important que tout le monde reste, parce qu'on faisait là. Et là, on ramassait des sous aussi. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais... Regardez, au balcon,
aux fenêtres, dans les rues, dans les avenues, il y a des milliers de têtes qui viennent assister à la procession. Voilà, voilà ce que c'est donc la, la procession solennelle. 10 esclaves limousins sur la liste de 1785. 10. Alors là, Michel Gerbois, Jean Planchard, Pierre Molleron, Melchior Derville. Pour moi, sans espoir. À part peut-être pour Melchior Derville, parce qu'il est certainement de Saint-Michel-des-Lyons, à Limoges, la paroisse. Et j'ai cru apercevoir des Derville. Mais bon, Limoges, c'est un peu compliqué pour chercher. On va voir trois cas maintenant qui restent à creuser. Normal, il y a un creusoir. Léonard Dupressat, âgé de 43 ans, captif 4 ans, de Méronnet ou Maisonnet. Alors, Pierre-Yves Lavalade, celui qui fait les recherches, de toponymie, m'a dit « Ça, c'est certainement Maisonnet-sur-Tardoire. » Et c'est un homme de bon conseil parce qu'il avait raison. Maisonnet-sur-Tardoire, en Haute-Vienne. Oui, Haute-Vienne. Parce que, alors, donc, il serait né en 1742, lui. 43 et 42, ça fait 85. Le 8 juillet 1742 a été baptisé Léonard, fils de Marcel Pressat. Alors, c'est certainement le Dupressat captif, même si on ne peut pas l'affirmer. Jean Legrand, 24 ans, captif de 4 ans d'Aubusson, donc Aubusson. On trouve effectivement des souches Legrand à Aubusson à cette époque-là. Et j'ai dit que je laissais au creusoir le soin de creuser, donc je le fais. Pierre Dignac, 30 ans, captif 12 ans de Chamboulive. Il a été pris à 18 ans. Donc les gens partaient jeunes quand même. Alors, il y a plein de Guignac à Chamboulive, en effet. Il y en a plein. Et le 3 novembre 1760, est né un Pierre Guignac à Chamboulive. Est-ce que c'est le captif? Moi, je pense qu'il vient de là. Je pense que oui. Alors là, j'ai eu des doutes. Maintenant, pour les trois cas que nous allons voir, j'affirme. Vas-y. Louis Soustre, 41 ans, captif depuis 7 ans de Saint-Martin-Lamien ou Saint-Martin-Lamienne. Saint-Martin-Lamienne, là-haut sur les coteaux d'Argentan. Nous avons dit que nous voulons faire la preuve par 1785. Alors, il avait 41 ans quand il a été racheté. Baptême de Louis Soustre, le 6e septembre 1744. On y est. A été baptisé un garçon né depuis hier de Antoine Soustre, couvreur de tuiles, et de Riga le Nougen, sa femme, habitant du présent lieu, Saint-Martin-Lamienne. Voilà. Alors quand on trouve un document comme ça, je vous assure qu'on est content. C'était le 9e enfant de la famille, et alors le pauvre, évidemment, il a perdu ses enfants, ses parents, très jeunes. Et il a été capturé en 1778. Et une fois racheté, comme d'autres, comme Bourguet, il est revenu chez lui. Le 1er avril 1788, enfin chez lui, il se marie à Argenta, dans le quartier de l'hôpital. Il épouse Anne Aymar. Et l'acte de mariage précise que tous les deux sont originaires de Saint-Martin-Lamien. En 1790, ils ont un enfant. Et Louis Soustre décède à Argenta le 29 janvier 1810. En voilà un de plus. Jarry. Alors, Anne Jarry, 43 ans, esclave 14 ans de Saint-Pierre de Tulle. Alors, dans la liste qui est publiée ici, là, c'est simplement A. Jarry. Et dans une liste que j'ai obtenue de Arles, on voit bien que c'est Anne. Donc, c'est beaucoup plus précis. Pour sa naissance, on remonte aux années 1742, par là, et Martin Jarry, sargeur, c'est-à-dire tisserand, et Jeanne Salle se marient à Tulle en 1736 et vont avoir au moins deux enfants, dont Anne et Antoine Jarry le 1er janvier 1740. On y est. Anne Jarry revient à Tulle lui aussi. Il revient chez lui. Après son rachat, et il s'y marie le 11 juillet 1786. En 93, Anne Jarry, charpentier maintenant, habitant de la ville rue d'Utrecht, déclare que sa femme vient d'accoucher d'un garçon. Et un bon signe, c'est que le petit garçon s'appelle Martin. comme le grand-père. Donc, c'est une preuve supplémentaire. Jarry, ça existe encore à Tulle. Je n'ai pas pu voir si on pouvait faire une relation. Et nous allons terminer avec les cas individuels, avec celui par lequel tout a commencé.
Ah oui.
Martial Clausel, captif 6 ans de Connac, diocèse de Limoges. Alors, bon, là, je l'ai réécrit, mais sur le livre, Connac est écrit C-O-N-A-C. C'est pour ça qu'en faisant une erreur, finalement, comme Lavoisier ou comme je ne sais pas qui, j'ai trouvé des choses importantes. C'est comme ça que ça a commencé. Donc. Martial Clausel, 29 ans, captif 6 ans de Connac, diocèse de Limoges. Martial Clausel, fils naturel et légitime à Pierre Clausel et à Jeanne Chassin, aîné au village de Blézac, le 17 décembre 1756. 56 et 29, chez moi ça fait 85, on y est. En plus, bon, nous les Clausel de Connac, on les connaît, on sait qu'ils sont là depuis 1721. Cette année-là, c'est un briviste qui nous a fait l'honneur de venir à Connac se marier avec une fille de Blézac. Et puis, il a fait souche, évidemment. À cette époque-là, Blézac, c'était un village important, ça l'est encore. Maintenant, il y a peut-être 30 maisons à Blézac. Entre 25 et 30. Alors, voici le cadastre de Connac de 1823. Et les Clausel habitaient en plein dans le village. En face, le four. Le four, il était ici, il est toujours là, restauré, pas moi. Ensuite, ils possédaient aussi une grange, 106, et leur maison, c'était la parcelle 103. La matrice cadastrale dit sol de maison et cour, 80 mètres carrés. Ça fait petit, pour dire que leur demeure, elle était minuscule. Or, vous voyez cette flèche-là, j'ai pris une photo dans le sens de la flèche, si on ne voit pas trop bien. Au premier plan, il y a une grange, au fond, on voit une maison. Christian, c'est celle-là, la maison des locataires d'Elbari. Hein? Et entre les deux, il y a un espace. Et bien, c'est là que se trouvait cette maison. Confirmation, pas plus tard qu'il y a 15 jours, je suis allé voir monsieur et madame d'Elbari par an, ils ont 95 ou 96 ans, et madame d'Elbari m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Je l'ai vu démolir dans la maison là. Oh, elle était petite, monsieur. Il y avait une pièce unique avec une cheminée et un grenier. Mmh. Eh bien, c'était la maison où habitait notre.
Le 103.
Comment ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'était la maison où habitait notre esclave. Malheureusement, Clausel, c'est pareil. J'ai rien retrouvé. Voilà. Au retour, il n'y a pas de Clausel. Enfin, pas de Martial Clausel à Connac. Où est-ce qu'il est parti ? On verra, peut-être qu'à partir de là. On arrivera à trouver des choses. Donc, sur une carte, j'ai reporté tous les pays d'origine des captifs, lorsque j'ai pu les repérer. Alors, comme vous, je voudrais faire deux petites remarques. Un, ce qui est devenu, puisque à l'époque, le département de la Corrèze n'existait pas, c'est à la Révolution qu'il a existé. On prend un bout de l'ancien diocèse, la partie balimousain de l'évêché du diocèse de Limoges, et le minuscule diocèse de Tulle, et on fait la Corrèze. Bref, vous avez vu que la Corrèze remporte largement la palme. Regardez le nombre. Bien, ça veut dire que les Corréziens bougeaient. Deuxième remarque, toujours de cet ordre, quand on dit que les Limousins étaient des rustres, qu'ils avaient toujours les deux pieds dans le même sabot et qu'ils bougeaient jamais de chez eux, je voudrais vous faire un peu de mathématiques. 36 listes, 2755 noms, 23 Limousins, ça fait 0,8%. On est d'accord, quelque chose de plus. 0,8%. Oui, mais sur 2755 noms d'esclaves rachetés, il est sûr qu'on a racheté au moins 20 000, 30 000 esclaves au cours des siècles. Appliquer 0,8%. À 30 000, et la carte serait beaucoup plus couverte. Voilà, mais je pense qu'on ne saura jamais, parce qu'on ne retrouvera jamais toutes les archives. Sur le tableau que voici, surligné le cas des
Limousin qui sont revenus chez eux après avoir été rachetés. En caractère gras, ceux dont l'identification est certaine. Souligné, probable. Vous voyez. Et puis, alors, j'ai rajouté un petit plus pour me faire plaisir, pour montrer les cas que j'ai rajoutés au cas de qui avait déjà été publié en 1916. Alors, c'est pas grand-chose, mais enfin, bon. Désormais, on est à 23. Dans 100 ans, celui qui viendra ici me faire la conférence, moi, j'y serai pas, m'en rajoutera probablement quelques-uns de plus. Voilà. Il faudra lui dire, Madame Guéry. Hein. Vous ne le prenez pas s'il n'en met pas en plus. Hein. Voilà. Donc, nous voilà parvenus au bout de cet exposé. Alors, 232 ans sont passés depuis la dernière rédemption de 1785. On pourrait penser, en tous les cas, moi je pensais, mais alors très naïvement, que tous ces événements avaient été oubliés depuis très longtemps. Et puis, j'ai fait comme vous allez faire certainement, je suis allé sur Internet et j'ai tapé « barbaresque ». Et alors là, j'ai presque eu envie de me boucher les yeux et de dire que j'y reviendrai pas, parce que aujourd'hui on voit des sites à foison. Mais il y a aussi des livres qui sont publiés, des revues. Il y a des idées, des thèses qui sont publiées, douteuses pour certaines. Bon, il y a des historiens aussi, vous verrez, très bons historiens qui font des choses sérieuses. Mais les autres, et beaucoup, donc c'est souvent douteux. Je dirais aussi très souvent nauséabond. Et les théories qui découlent de tous ces sites, tous ces trucs, c'est presque toujours tourner en règlement de compte entre, vous avez compris, esclavage blanc, noir, chrétien, musulman, ou vice-versa. Donc moi je veux mettre les points sur les i et dire que je veux me tenir à distance de ce genre de démarche, et que d'ailleurs, je ne tiens pas du tout à ce que les données qui ont été livrées là soient utilisées pour les alimenter. Ce n'est pas mon problème. Ce que j'ai voulu, c'est essayer de retrouver le parcours oublié de ces hommes derrière les soubresauts de l'histoire, et puis rien de plus. Voilà. Pour terminer, je voulais remercier Mme Guéry, comme d'habitude, aussi, pour ses conseils, ses encouragements, parce que c'est toujours très important, et vous remercier pour votre patience et votre attention. Merci.